France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin Lafay.
Les sports de combat occupent une place singulière dans l'actualité. Ils font l'actualité, d'abord tel le grand combat de MMA le 7 mars dernier qui opposait Cédric Doumbé à Baki et qui a réuni plus de 20 000 spectateurs à l'Accor Arena à Paris. Les sports de combat sont aussi dans l'actualité car leur imaginaire est instrumentalisé. La photo d'Emmanuel Macron boxant dans une salle de sport, une image largement commentée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, en est une illustration. Alors comment comprendre cette place? Comment les pratiques et les représentations autour des sports de combat se sont profondément modifiées au cours des années. Pour en parler, je reçois ce matin Selim Derkaoui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de « Rendre les coups, boxe et lutte des classes ». Ça a apparu aux éditions Le Passager clandestin en 2023. Vous êtes également journaliste indépendant. Et commençons peut-être par le début de l'histoire. Qui, historiquement, pratique la boxe en France?
Alors, au tout début, c'est plutôt l'aristocratie. Vraiment au tout début, c'est un peu boxe origins, je dirais. Mais au fur et à mesure, ça a été plutôt des prolétaires, je dirais plutôt les classes laborieuses de manière générale, plutôt un prolétariat blanc, ouvrier et originaire plutôt du nord de la France. On pense à Georges Carpentier, Marcel Cerdan, qui ont tous cette origine sociale ouvrière. Et au fur et à mesure des décennies, notamment après l'indépendance de l'Algérie, c'est plutôt des couches immigrées, maghrébines et noires principalement en France.
Comment est-ce que la culture populaire s'est également appropriée ce sport, la boxe? On pense évidemment au cinéma, à la littérature.
Oui, en fait, la boxe est le sport le plus représenté au cinéma et dans la littérature. Parce qu'il a longtemps fasciné en fait, des auteurs, des cinéastes, notamment américains, du fait de deux hommes qui se sacrifient sur un ring. C'est visuellement, c'est très attrayant, c'est très beau, on a plein d'images en tête, mais on le sait pas forcément, en fait. C'est quelque chose un sport qui est près de nous, on en a tous des images, mais finalement, on en connaît assez peu les pratiques concrètes dans les clubs, dans les banlieues françaises, etc. Ça coïncide avec un imaginaire culturel très fort, pour toutes les raisons, qui sont symboliques et esthétiques, mais dans la pratique, on connaît un peu moins ce sport.
Vous parlez de valeurs symboliques, esthétiques. Quelles sont-elles exactement ces valeurs? Qu'est-ce qui est mis en lumière lorsqu'un combat de boxe a lieu?
Alors attendez, ça a coupé. Désolé.
Je répète ma question. Les valeurs esthétiques et symboliques, vous les mentionniez. Qu'est-ce qui est mis en lumière lorsqu'on parle de boxe aujourd'hui?
Alors en fait, justement, là, ce qui est très intéressant, et notamment si on fait référence à la photo de Macron qui se prend en train de faire de la boxe, c'est qu'en fait, les référents de la boxe symbolique, c'est plutôt un sport dur, sport d'ouvrier, et le fait de vivre des choses difficiles dans sa vie, on appelle ça des coups sociaux, fait en sorte qu'on est plus apte à prendre des coups et à en recevoir sur le ring, et ensuite à en rendre. C'est-à-dire, tous les boxeurs, les boxeuses que j'ai interviewées en France, sur les 50 dernières années, leur point commun, c'est leur position sociale très dure. C'est qu'en fait, ils me racontaient que le fait qu'ils soient ouvriers à l'usine, qu'ils travaillent comme, par exemple, brancardier ou aide-soignant à l'hôpital public, fait qu'ensuite, ils vont pratiquer ce sport-là. On a tous l'image du rookie, etc. Donc, ça, c'est le symbole le plus fort, c'est celui-ci, c'est celui de la condition sociale. Après, l'autre symbole, il est plutôt, comme je disais tout à l'heure, culturel dans les représentations. Et Macron, en fait, par exemple, il se repose sur ces deux symboles-là, le symbole ouvrier populaire et le symbole, je dirais, plutôt culturel des représentations qu'on peut en avoir dans le monde cinématographique et littéraire.
Je voudrais rester un instant sur les premières personnes que vous avez interrogées, celles issues de milieux modestes. Vous évoquez leur quotidien difficile, ardu parfois. Pourquoi s'engager le week-end dans leur temps libre dans un sport qui est lui aussi extrêmement dur? Qu'est-ce qui les motive à faire de la boxe?
En fait, c'est pas que le week-end, c'est toute la semaine. C'est quatre fois par semaine. C'est un entraînement qui est très dur. Et en fait, la plupart de ce qu'ils me disaient, que ce soit les boxeurs ou les boxeuses, souvent ils commencent la boxe parce que c'est dans leur environnement social. En fait, les clubs de boxe, ils sont implantés en fonction de la géographie ouvrière du pays, notamment la Couronne Rouge, les bastions communistes, miniers, les banlieues populaires françaises, donc dans la Seine-Saint-Denis. Et en fait, pour eux déjà, c'était des clubs qui sont pas loin de chez eux, à proximité. Ils ont forcément une connaissance qui pratique ce sport-là, ou alors un camarade qui travaille avec eux à l'usine ou ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, donc qui ont des professions similaires. Et en fait, leur motivation, ça va être la problématique qu'ils peuvent avoir à l'école, le fait qu'il y ait une injustice sociale, du fait que ça reproduit les inégalités, etc. Ils vont retrouver une dignité et la symbolique, le mythe entre guillemets de quand on veut, on peut, de toutes ces choses là qu'on leur inculque, ils vont le retrouver dans une salle de boxe avec un coach qui est souvent issu du même milieu social et du même quartier. Ils vont vraiment avoir cette possibilité de monter et d'apprendre en travaillant et de retrouver du sens à travers ce sport là et surtout voilà du fait d'être capable de prendre des coups et de se constituer ce que j'appellerais un capital musculaire, c'est-à-dire le capital symbolique, culturel, économique qu'ils n'ont pas dès la naissance, que mon père n'avait pas, parce que je parle de mon père notamment dans le livre, qu'ils n'ont pas dès la naissance. Finalement, ils vont se constituer leur propre capital avec ce qu'ils peuvent et par rapport à leur travail.
Et dans le même temps, Selim Derkaoui, ce que vous observez aujourd'hui, c'est un paradoxe aux parents, un déclin de la boxe dans les milieux modestes et populaires et une appropriation de ce sport par les classes aisées. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors en fait, oui, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que au tout départ, il y a pas mal de clubs de boxe qui se sont implantés dans les centres des grandes villes françaises et un peu dans le monde aussi. Hein. C'est un phénomène qu'on observe aux États-Unis également. Alors en fait, la boxe, il y a toujours ce truc-là de sport qui est considéré comme le plus complet au niveau de la corde à sauter, au niveau des muscles, au niveau des jambes. Voilà, c'est pour ça que Emmanuel Macron pratique de la boxe aussi. Enfin, c'est pas que ça, mais ça en fait partie. Donc c'est le sport le plus complet. Et là, les 15 dernières années, je dirais, parmi les CSP+, il y a cette volonté de prendre soin de son corps. Et la boxe le permet. Donc ça, c'est le premier point. Il y a des films aussi qui ont participé. Je pense à Million Dollar Baby de Clint Eastwood, qui a vachement participé aussi à une CSP+, embourgeoisement plutôt du sport. Ça va être plus simple de dire comme ça. Ce film-là aussi a participé. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait de le mettre vachement en avant parmi ces classes dominantes-là, le fait de pratiquer de la boxe, de le mettre en avant assez narcissiquement, comme Macron a pu le faire avec ses photos, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi Olivier Véran qui le fait régulièrement, Édouard Philippe. Le fait de le mettre en avant et de le dire explicitement, notamment dans des médias, c'est aussi une forme de réappropriation culturelle de classe. C'est qu'ils savent très bien que c'est un sport extrêmement populaire. C'est un sport qui a beaucoup de signification sociale et beaucoup plus que d'autres sports, qui est très marqué. Donc par conséquent, en termes de communication politique, le fait de le mettre en avant, c'est aussi une manière de se raconter et de nous raconter qu'ils sont aussi proches d'un peuple, proches des classes populaires à qui ils ne s'adressent plus. Voilà.
Les femmes, également pratiquent de plus en plus la boxe. Là encore, quel imaginaire mobilisent-elles lorsqu'elles se lancent dans l'exercice de ce sport ?
En fait, il y a deux catégories de femmes qui pratiquent la boxe. Il y a plutôt la catégorie des femmes des milieux populaires. Donc elles, ça va être plus de la boxe amateur professionnelle, essayer de monter en compétition. La boxe a été autorisée aux femmes très tardivement. La fédération l'a interdit jusqu'à la fin des années 90, parce que c'est une fédération qui peut être extrêmement bourgeoise, assez réactionnaire et qui voulait vraiment pas que les femmes puissent faire de la boxe. Et depuis, notamment, je reparle encore du film Million Dollar Baby, parce qu'il a été assez important justement aussi dans le fait que des femmes ont commencé à faire de la boxe, à en pratiquer dans les quartiers. C'est la philosophe Elsa Dorlin qui a cette phrase qui dit que pour une femme, entrer dans une salle de boxe, ouvrir la porte, c'est déjà un geste politique. Et en fait, les femmes des milieux populaires, ça va être plus voilà, en amateur, en professionnel, comme leurs frères, comme leurs pères auparavant. Par contre, les femmes des milieux, je dirais plutôt bourgeois ou CSP+, il y aura une pratique de la boxe qui sera plus éducative. Pas forcément vouloir faire de la compétition, mais il y aura une dimension d'autodéfense qui sera aussi le cas pour les femmes des quartiers populaires. Mais les femmes des quartiers populaires, il y aura aussi la dimension, comme pour les hommes avant, d'émancipation sociale, de trouver de la dignité, du sens sur un ring politiquement et socialement. Par contre, pour les femmes CSP+, il y aura aussi cette dimension-là de combattre les préjugés sexistes sur le ring. Il y a des clubs qui ont ouvert ces 10 dernières années, qui sont des clubs en non-mixité, qui sont des clubs contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça, c'est un phénomène très nouveau qu'on a en boxe.
Dans ce cadre nouveau, comment est-ce que vous expliquez en parallèle le succès du MMA ? Est-ce que, au fond, c'est le même rapport au sport, le même rapport au virilisme et au corps, ou c'est quelque chose d'assez différent ?
Alors, pour moi, c'est vraiment la continuité de la boxe. Alors, ça a des règles différentes. Là, on pourrait mettre des heures pour raconter la plantation du MMA aussi en France, où justement les Américains avaient du mal à l'implanter au départ parce que en France, on a besoin d'une valeur éducative pour imposer un sport. Et là, les Américains, quand ils sont venus avec le MMA, il n'y avait pas de valeur éducative. Donc, il y a eu toute une négociation. Bon, là, je rentre pas dans les détails, mais qui est très, très intéressante au niveau de philosophiquement ce qu'est un sport. Le MMA est autorisé. C'est une pratique qui était déjà pratiquée, en fait, dans des associations en France pendant des dizaines et des dizaines d'années. Finalement, le gouvernement disait que c'était interdit, mais c'était très pratiqué dans des clubs de boxe, notamment. Donc, en fait, le MMA, c'est la continuité sociale et politique de la boxe. En fait, la plupart des coachs que j'ai interrogés me disaient, en fait, les jeunes des quartiers populaires en France et des campagnes aussi et du monde rural pratiquent de plus en plus le MMA et délaissent un peu la boxe. Ils retrouvent la même chose que la boxe, c'est-à-dire l'émancipation sociale à travers un sport, le fait de se créer et constituer un capital musculaire, etc. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a plus d'argent à se faire dans le MMA, c'est qu'il y a plus de possibilités de carrière et de sortir de sa condition sociale, ce qui n'est plus le cas de la boxe, qui paye beaucoup moins qu'il y a encore 40 ans.
Cette dimension commerciale, elle est prépondérante pour celles et ceux qui exercent le MMA. Elle l'est aussi pour ceux qui le suivent ?
Oui, complètement. En fait, ce qui est assez fascinant avec le MMA, c'est que c'est le côté boxe, mais toujours plus. Ça l'est au niveau de l'argent, il y a encore plus d'argent en jeu, des sponsors, etc. C'est un sport qui est un peu plus violent. Alors, il y a des règles, du coup, ils ont quand même, que ça l'est quand même moins qu'avant. Avant, il y avait vraiment une cage, et maintenant, ils l'ont supprimé aussi, qui a un imaginaire très gladiateur, très des prolétaires qui se battent entre eux dans une cage. Donc ça, ils l'ont enlevé, donc il y a des réglementations, et ça l'est de plus en plus. Par contre, ce qui est assez frappant, c'est le storytelling qu'il y a derrière les combattants et les combattantes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le MMA. L'imaginaire qui est convoqué, c'est celui, encore une fois, de l'origine sociale. Moi, j'étais assez frappé de voir que pour un combattant de MMA brésilien, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'accent sur lui était mis, la petite vidéo d'introduction, un peu comme un jeu de combat d'ailleurs, hein, avec une vidéo, une scénette d'une minute trente qui est assez longue, la focale était mise sur sa vie dans les favelas brésiliens. Et plus sa vie était montrée de manière difficile, plus le combattant en face avait des raisons d'avoir peur. Et là, le MMA insiste encore plus sur ces dimensions-là que la boxe auparavant.
Merci beaucoup, Selim Derkaoui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Rendre les coups, boxe et lutte des classes ». Ça a paru aux éditions « Le passager clandestin » en 2023. Vous êtes également journaliste indépendant. France Culture, il est 7h18.